Voilà, messieurs, dames, à Sport Épique, dans un lieu mythique, qui est devenu mythique de par cette crise, puisque nous sommes au studio de la SCOMAM, heureux comme tout de se retrouver dans ce très très beau lieu dédié à la gloire radiophonique. Nico est présent avec nous. Nico, est-ce que tu es heureux de ce retour?
Ah, je suis heureux de ce retour aux sources.
Ah là là,
salut
là,
à tous.
Là, ça redevient de la radio, là. Et j'ai mon duo de compères, de vrais compères. J'ai mon Fredo et mon Lionel. Merci les gars, merci d'être là.
Merci à toi de nous accueillir. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Très heureux de retourner dans le studio, masqué, super heureux.
Ouais, tout le monde est poli pour l'instant, tout le monde est bien, c'est très très agréable. Ouais, donc retour avec ce Covid, avec les annonces de Monsieur Macron. Monsieur Macron qui a quand même précisé qu'il y a beaucoup de choses à mettre entre parenthèses, mais certainement pas Sport Épique.
Il a précisé.
Il a vraiment insisté là-dessus. Si on peut-être démarrer tout bêtement là-dessus, hein, comme évidemment tout le monde vous saoule, mais moi j'ai mes petites interrogations. Comment ça se fait qu'il y ait des protocoles aussi stricts quand on nous autorise encore, nous amateurs, à jouer au foot? Et même les professionnels qui continuent à jouer au foot, sachant que forcément il y a des crachats, forcément il y a des gouttes de sueur, forcément il y a une proximité. Et moi je peux vous dire que dans un vestiaire, on est très très loin d'une distanciation sociale qui devrait être la norme. Lionel, vas-y mon ami.
Oui, juste parce que je ne sais pas jusqu'à quelle mesure le public et les sportifs ont interprété ce qu'il a appelé la règle de 6. Est-ce que ça va être vrai aussi pour une partie des sportifs amateurs, la règle de 6? Ça fait beaucoup de sports qui vont être compliqués.
Non mais c'est juste incroyable qu'on te fasse tout ce cirque, qui est normal, hein. Moi je ne remets pas en cause, il n'y a pas de souci, hein. c'est des règles sanitaires, il n'y a pas de problème. Mais interdisez-nous de jouer au foot. Interdisez-nous, on est tous dans un vestiaire collé, en train de se jeter dans les bras les uns des autres parce qu'on est heureux d'avoir gagné, évidemment.
Ah, ça fait comme au foot.
Pour ceux qui gagnent. Donc, moi, je comprends pas que ça n'ait pas insisté là-dessus, ou alors j'ai raté une étape, peut-être.
Ben non, pour moi, ça devrait être totalement interdit au niveau amateur, clairement. Au niveau pro, les gars sont testés, je pense, tous les deux jours, donc bon.
C'est vrai.
C'est leur métier, il y a de l'argent en jeu, on peut le comprendre. Mais effectivement, au niveau amateur, tout devrait être terminé, arrêté.
Et il y a des protocoles stricts au niveau pro. Y a des... Ça sert beaucoup plus que nous. Nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Les présidents de club font ce qu'ils peuvent.
Il y a des protocoles qui sont aussi établis amateur.
Tout à fait. Sauf que nous, on n'est pas...
Sauf que vous n'êtes pas testé.
On n'est pas testé. Voilà. Et surtout, on n'est pas scruté à la loupe. On ne voit pas tous nos faits et gestes. Donc, on peut moins se dire, tel Pékin de tel club a fait ceci, cela, alors que au niveau, forcément, il y a des caméras partout. Donc, si quelqu'un respecte pas quelque chose, tout de suite, ils
les crachats, les injures sur le terrain de foot, c'est pas
non, c'est réservé aux pros,
c'est réservé aux pros,
c'est sain.
L'amateur ne sue pas,
c'est très très sain.
Non, la chose la plus aberrante dans le sport amateur, c'est que par exemple, au niveau entraînement, on n'a pas accès au vestiaire ni rien, faut venir en tenue habillé. Par contre, le match du dimanche, tu as accès au vestiaire et tout. Donc c'est vrai que c'est
tout est incohérent,
c'est surréaliste, ouais.
Tout est incohérence partout, enfin même au niveau professionnel. Tout
mais
partout.
Bon, on va pas râler pour râler, mon Nico. On va juste se poser ces questions-là. Qu'est-ce que nous on fait encore dans le vestiaire? Qu'est-ce qu'on fait encore dans le vestiaire? Moi, je serais prêt encore à me mettre entre parenthèses, sachant que j'ai fait un tennis ce matin avec toi, Fred, et qu'on n'aurait peut-être pas dû.
Moi, je me suis mis entre parenthèses dès ce matin.
Ouais. Sachant que tu n'avais pas été bon au volley dans la semaine non plus, mais ça, c'est autre chose, messieurs, dames, évidemment, ça ne vous concerne pas. On va parler, parce qu'on aura un invité, notre premier invité de l'année, invité mystère, qui arrivera tout à l'heure, parce que pour l'instant, il a une vie de famille également.
Mais on aura le droit de faire un jingle quand il invitera.
Ça va être extraordinaire. Et on va, puisque ce week-end, Fred, tu nous faisais la réflexion, hors micro, que Hamilton est venu rejoindre Schumi au rang de la Formule 1. Donc, il fait pas tomber, puisque pour l'instant, il égale Lidl, mais on arrive à 7 victoires et on arrive à ce fameux record de Schumi. Est-ce que vous, ça vous est arrivé dans votre vie de souffrir d'un record qui tombait? d'une idole qui tombe. Moi, à chaque fois que quelqu'un qui a un nouveau coureur du Tour de France, et je pense l'année dernière à Bernal qui était très jeune, je me dis s'il est parti pour 5 ou 6, j'ai pas envie moi qu'il fasse tomber Hinault, j'ai pas envie qu'il fasse tomber Anquetil, je veux que ça reste à 5 le record quoi. Et là tu me dis que Schumacher est égalé et ça m'a fait un pincement moi aussi.
Ah clairement, et puis c'est comme d'habitude, c'est les circonstances qui font ça quoi. Si on prend l'exemple d'Hamilton, bon, à la limite, qui dépasse Schumacher parce qu'il est flamboyant, il y a des courses super intéressantes, tu te dis c'est fabuleux. Donc là, ça fait quand même un paquet d'années qu'on s'ennuie à mourir devant la Formule 1, où il y en a un qui a une vraie voiture, les autres ils sont en deux chevaux. Donc bah, il gagne avec le coude à la portière. Je sais même pas s'il baisse sa visière du casque. Enfin, c'est juste dramatique. Et se dire que le gars, il arrive au niveau de Schumacher, qui a été dominant, qui a eu des adversaires costauds, Alonso, Hakkinen. Et là, quand tu vois ça, d'ailleurs, je crois qu'il y a plus un Français qui regarde. Je pense que Mediapro devrait reprendre la.
Moi, je le fais partie de ces Français. Ouais. Je fais partie de ces Français qui ne s'intéressent plus à la Formule 1.
Bah voilà, clairement.
Exactement.
C'est chiant à mourir. Ouais.
Lionel, ouais, on clairement. Est plus en distanciel. Hein. C'est plus la peine de lever la main. Tu peux intervenir. Il n'y a pas de souci, mon ami.
Non, juste un mot pour dire également que il y a de la déception, mais il y a aussi beaucoup de surprises. Je ne les ai pas vues passer les années Hamilton. J'ai suivi à peu près gentiment la F1 avec Schumacher, avec une certaine passion. Il y avait des choses intéressantes et j'ai pas vu passer. Quand j'ai appris cette nouvelle il y a quelques semaines quand même, quand on attendait que ça vienne, je dis comment, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Je ne les ai pas vues passer.
Ouais, parce que peut-être qu'il a moins de charisme, peut-être que c'est moins.
Parce qu'on suit plus, il y a pas de concurrence
plus. Mais alors, je sais pas, vous avez peut-être pas ma chance moi de fréquenter Fred assez régulièrement, mais ce mec est pétri d'une mauvaise foi assez extraordinaire. Il est en train de soutenir que Hamilton c'est trop facile pour lui. Il conduit une vraie F1 pendant que les autres sont en deux-doches. Qu'est-ce qu'il conduisait, Schumi? Schumi, il était sur Ferrari pendant que les autres, c'est pareil. Hein. Alonso, il avait perdu sa bagnole. Renault, ça faisait plus rien.
Non. Il avait Hakkinen en face. Faut pas oublier que les
Hakkinen, il courait sur le mulet.
Ouais, mais d'accord. Faut pas oublier que Schumacher, il a toute une période où il est chez Benetton.
Il avait pas une voiture.
Il avait pas la meilleure voiture. Non. Il a été monstrueux.
Alors parlons de l'époque Benetton, où il gagne ses deux premiers titres, mais après il arrive chez Schumacher, il a toute une équipe à milliards derrière lui, et il met du temps à gagner chez Ferrari.
Mais bien sûr, quand tu arrives chez Ferrari, Ferrari est dans le même état qu'actuellement, c'est-à-dire au fond de la mine. Ils ont vécu des années avec Alain Prost où Prost disait qu'il fallait garder juste la couleur chez Ferrari, autrement il conduisait un camion. Enfin, c'était vraiment dramatique. Donc il a relevé ça grâce à Jean Todt aussi, hein, qui était derrière tout ça, l'instigateur tout ça. Donc il y a eu une vraie épopée. Tandis que là, Hamilton, quand il arrive chez Mercedes, c'est Schumacher qui a fait le boulot avant pour développer la Mercedes. Il arrive sur une bagnole qui gagne. Donc d'entrée de jeu, il a juste eu un adversaire, c'était Nico Rosberg. Nico Rosberg, son coéquipier, il lui a tellement pourri la vie que Rosberg, la seule année où il gagne, après il décide d'arrêter tellement il est écœuré du comportement d'Hamilton. Et derrière, c'est stand-by. On a Bottas qui est son coéquipier, Valtteri Bottas, on ne sait même pas à quoi il ressemble.
Mais je crois, de toute façon, comme on signait tout à l'heure, on s'ennuie profondément.
Ah bah bien sûr, mais
moi,
plus personne ne regarde.
90,
mais l'objectif, c'est peut-être de faire Hamilton le champion, au point. C'est peut-être lui qui est le plus télégénique et le plus...
Ouais, mais c'est tout ce qui reste. Effectivement, c'est tout ce qui reste.
Mais il pète la F1 à l'image de ce qu'on a dit souvent, on a déjà eu ce débat ici, sur le PSG, à force d'avoir des énormes équipes comme ça dans un championnat qui écrase tout, bah forcément, tu tues ton championnat. Là, c'est pas ils sont en train de tuer la F1 parce qu'il n'y a qu'une voiture. Ouais, alors est-ce qu'on relance le débat? Est-ce qu'il faudrait qu'ils courent tous sur la même bagnole pour savoir qui est vraiment le meilleur pilote? C'est autre chose, peut-être pas, parce que les marques, c'est normal aussi qu'elles se tirent la bourre sur des conceptions de bagnole. Mais de là à écraser des championnats pendant 10 ans, bon bah ouais, nous on sait plus que faire dans la télé.
Ils sont pas les mêmes voitures, mais il faut remarquer que tous les ans, les responsables de la fédération font des règles pour égaliser un peu tout ça. Ah, vous êtes fort là-dessus. Oui. Bon, on va faire une règle qui va c'est vous vrai. Descendre sur cet avantage. Un petit peu, alors c'est pas encore Mercedes reste devant, mais on a vu d'autres équipes,
ils cherchent, hein.
D'autres écuries qui ont beaucoup souffert.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors, je joue au pénible. En fait, le problème, c'est que c'est pas tous les ans. Et justement, pour la F1, ils attendent 2022 avec la nouvelle réglementation. Donc, en attendant, enfin, il y a qu'à voir. Hein, Vettel, il a baissé les bras chez Ferrari. Il fait plus rien. Il attend de changer d'écurie. Ils attendent la nouvelle réglementation pour essayer de retrouver une certaine équité. Ouais. Mais là, clairement, Mercedes, ça fait 5 ans qu'ils ont énormément d'avance. Parce que là, ils font un peu comme Froome au Tour de France. C'est-à-dire qu'ils font semblant de gagner qu'avec une ou deux secondes d'avance. Voilà. Mais ils pourraient mettre ça par tour. D'accord, sachant qu'un Grand Prix, c'est entre 50 et 70 tours. Donc, clairement, il pourrait doucher, rentrer chez lui en avion et le deuxième arriverait, quoi. Donc, bon, ouais, ça perd un peu de son charme.
Alors,
quoi.
C'est pareil que Froome et la Sky et la Ineos, si on veut, pendant toutes ces années. Est-ce qu'on doit être, nous, tout le temps contre la performance? Est-ce qu'on doit être contre l'excellence? Est-ce qu'on doit être contre la machine à gagner? C'est pas dit, hein. Moi je sais pas non plus, hein. Je sais pas trop. On a craché sur la Sky parce qu'on s'est ennuyé pendant des années pendant le Tour de France. Ouais, mais c'était hyper bien huilé. C'était des vrais champions qui avançaient bille par bille et à l'arrivée ils écrasaient tout. Et ben là c'est un peu pareil. Hein. Les mecs, on va pas non plus leur cracher dessus parce qu'ils ont fait la meilleure bagnole.
La nuit, on n'est pas contre le fait qu'Hamilton gagne. On est pour qu'il y ait du spectacle. Et malheureusement, il n'y en a plus. Le gars, il démarre, il est premier.
Ouais, c'est l'écart qui est immense avec les autres constructeurs. Mais comment tu peux le comprendre, ça, c'est là où c'est étonnant. Parce que chez Ferrari, il y a autant d'argent, à mon avis, que chez Mercedes ou ce genre de choses.
Et il y a autant d'ingénieurs.
C'est du plan technique, technologique.
Renault, moindre mesure, peut-être.
Bon, au-delà de la F1, il y a aussi ton mythe, peut-être, Fred, j'insiste sur toi, parce que tu as dû vivre vraiment un week-end très compliqué.
Ouais, un dimanche cauchemardesque.
Ton mythe fédéraire qu'on vient l'égaler de la même manière, puisque Nadal arrive à 20 grands chelems. Comment tu as vécu ça, là?
Très mal. Très mal. Mais pas le fait que Nadal égalise à 20 grands chelems, mais je veux dire, c'est un super champion. C'est juste les circonstances. Que même pour Nadal, hein, qu'il égalise à 20 grands chelems partout sur un Roland Garros qui a été mais pitoyable au possible, d'une tristesse à pleurer. Il y a même pas eu le dernier match, il y a même pas eu la finale pour relever tout ça, ouais. Parce qu'à la limite on aurait fini sur un gros match, ouais. On aurait retenu que le gros
que
match.
Tout le monde annonçait, hein.
Mais que tout le monde annonçait. Et tout le monde a pleuré, mais du néophyte au super spécialiste, parce que c'est un non match, c'est d'une tristesse à mourir. Il avait invité le cousin de Djokovic, c'est con, pour la finale. On aurait aimé avoir le vrai. Là, on avait un pantin, un gars qui a servi 20% de première balle, qui essayait de faire des amortis, on ne l'a jamais eu faire. Alors, il ne sait toujours pas les faire, hein. Donc il s'est entraîné pourtant, qui refusait de taper dans la balle, qui refusait de prendre
ça
cette
aussi. Comment t'expliques ça? L'autre, quand même, Nadal, moi je ne suis pas fan de Nadal, mais alors, ce qui me chagrine un peu, c'est arriver à 20 avec 13 Roland Garros.
Ouais, c'est voilà. Clairement.
Enfin, tu dis, par contre, le mec, moi, j'arrive pas à comprendre que sur terre battue, il soit. C'est le seul au monde.
Moi, c'est pareil, je peux pas comprendre ça. Que tu sois aussi au-dessus sur terre battue.
Qu'il y ait autant d'écart. J'ai vu, moi, le premier set, et alors je suis pas spécialiste de tennis, mais tu vois le premier set, t'as l'impression de voir un pro. avec un Benjamin en face.
Et surtout,
c'est là que tu te dis, mais Djokovic, il perd pas son tennis comme ça.
Et ce qui est surprenant, c'est que Djokovic, ces dernières années, il dominait outrageusement Nadal.
Ah oui.
Et même sur terre, il est là. Mais de toute façon, toute la quinzaine, hein, Djokovic, c'est une ombre.
Donc, déjà, il passe en demi contre Tsitsipas.
Et puis, t'as l'impression qu'il n'y croit pas. Il n'est pas dedans. Ouais. Il ne se révolte même pas. Ouais. Oh, la finale, il sert. Enfin, je veux dire, il est quand même numéro un mondial. Il fait premier jeu de service. Il essaie de mettre des premières. Il n'en passe pas une. Deuxième jeu de service, il fait la même chose. Enfin, au bout d'un moment, t'as juste compris que tu vas servir une première, deuxième. Tu vas essayer d'assurer pour engager. Non, le gars, il fait les mêmes conneries. Il sert les mêmes zones. De temps en temps, il essayait de servir le revers, il a fait des doubles fautes, il n'arrivait pas à servir le revers de Nadal. Enfin, je veux dire, on avait l'impression de voir un match de 15-3 contre un 32. Mais Parce que même là, Nadal n'est même pas monstrueux, parce que dans les journalistes, on disait « Ouais, il est à un niveau... » Mais non, on a vu Nadal faire des revers en cloche à mi-terrain. Enfin, je veux dire, il a un vrai joueur en face, le gars lui rentre dedans. Et là, il n'y a rien eu. Ça a été un non-match. Peut-être 2-3 jeux dans le troisième set.
Nadal fait du Nadal quand même. Nadal, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait son
Bien sûr, mais il n'a même pas eu à forcer. On a discuté. Regardes la finale de l'Open d'Australie 2017, qui est monstrueuse entre Nadal et Federer. Ça se joue à peu de choses. C'est un super match. Tu sens que les deux sont... Mais là, Nadal, il pouvait jouer 3 jours consécutifs contre ce Djokovic-là, quoi.
Ouais.
Enfin, je veux dire, parce même intérieurement...
Surface, moi, je suis absolument pas spécialiste. Est-ce que la surface, la terre battue, c'est vraiment quelque chose d'archi spécifique?
Ouais, c'est vrai. C'est, alors, c'est vrai que c'est les conditions.
Et qu'il l'avantage, c'est le joueur qui a mieux compris, je sais pas, ce type de surface.
Ah ouais, enfin, clairement. Son jeu est adapté à 100% à la terre battue. Mais, je veux dire, il n'y a pas un tel écart. C'est surtout Djokovic qui était au fond de la mine, là, sur ce coup-là.
Avec un petit bémol, en avant-match, on avait dit « Oh là là, le toit, il referme le toit. C'est pas bon pour Nadal, ça,
ouais,
c'est pas bon.
Ouais, » ouais,
ça fait
ouais.
sourire, après.
Mais tu sais qu'on essaye désespérément de s'inventer quelque chose pour continuer à croire qu'il va se passer, justement, quelque chose. Parce que ça fait quand même, là, c'est pareil. Bah, on parlait de Formule 1, on parlait de cyclisme.
Ce qui est dommage...
Ça fait 13 ans qu'on voit le match.
Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tout le tournoi, il joue personne avant, hein, Nadal. Il joue personne. Il a joué que des gars, des inconnus. J'ai cru voir un ou deux Mayennais d'ailleurs dans le tableau, quasiment, tellement c'était inconnu. Il joue en demi-finale. Le seul qui peut le contrarier, c'est Schwartzmann, mais qui sort de 5 heures face à Thiem. Donc ouais, Schwartzmann, ouais. Il est complètement out. Bah, il arrive en finale et en finale, il joue un fantôme. Donc, même lui, je pense qu'il a dû se dire, c'est incroyable.
Mais ça, t'as des vrais diffs aussi quand les mecs, ils sortent de bataille de 5-7
ah bah ouais, ouais.
et qu'ils le surlendemain doivent rejouer. Bah forcément, tu joues pas
ouais,
le même bonhomme.
Ouais,
hein, c'est...
Clairement.
Et du coup, les tableaux, c'est vrai que c'est compliqué.
Mais là, c'était triste. Mais parce que là, c'était l'idéal pour voir un Federer. Parce qu'avec le toit et la terre battue lourde. Parce que je rappelle que la dernière fois que Federer a joué Nadal sur une terre battue lourde, à Hambourg, il lui a mis une bulle quand même. Hein. Il l'a battu en finale en lui mettant une bulle.
C'est longtemps qu'on n'avait pas parlé. Hein.
Bon, là, bon, il est en pré-retraite, je sais pas où, là, en ce moment, à Rodge, mais bon, il va revenir.
On va continuer sur notre Roland-Garros. On va juste applaudir notre premier invité de l'année. C'est autre que Jutta Yu qui nous fait l'honneur d'être là. Bravo, Julien, merci.
Bonsoir tout le monde.
Julien viendra nous parler un peu du plaisir ou des malheurs d'un entraîneur d'un groupe B. Qu'est-ce que c'est gérer un groupe B? Est-ce que voilà, ça entraîne plus, comme je disais, plus de satisfaction ou plus de désespoir? On verra ça avec Julien.
Ravi d'être avec vous, en tout cas, messieurs, ce soir.
Merci, Julien. On se permet de finir... Avant de commencer avec toi, on se permet de finir sur Roland-Garros et sur est-ce que c'est une pépite, est-ce que c'est un coup d'éclat, est-ce que c'est une révolution du tennis, ce qu'on a vu avec notre Hugo Gaston National. Est-ce que avec un gabarit comme ça, parce que ça doit être un 72 ou 13,
les bras levés, ouais.
Est-ce qu'il vient de réinventer un peu le tennis comme a pu le faire Santoro, ou c'est un feu de paille et c'est un mec qui dépassera pas, de par cette taille, les 20e mondiaux peut-être ou les...
Je prends tout de suite la parole avant Fred, parce que j'ai aucun jugement technique. J'ai juste effectivement passé un moment très très sympa.
Moi aussi.
Alors c'était un revirement, c'était
ouais. c'était alors qu'on allait se pendre devant le Roland Garros, je tombe sur ce match contre qui joue la star.
Team.
Joue Team.
Mais oui.
Sur ce match
avec un revirement, avec des amortis que je savais même plus qu'on en faisait au tennis et qui passe. C'était vraiment.
Tsitsipas.
Oui, d'accord.
Et c'est le premier Lionel, ou alors je regarde pas assez de tennis peut-être, mais c'est le premier qui à mon sens, tente des amortis mais sur c'est... une énorme master de l'autre côté.
Et puis sur une série.
Il envoie une série. Enfin, il envoie des coups droits, mais énormes. Et l'autre, bam, amorti.
C'est qu'effectivement, tu manques de culture.
Ouais, je manque de culture quand même. Parce qu'en général, ils tendent les amortis quand les balles sont plutôt molles.
Ouais, mais c'est vrai que Santoro, on a fait pendant des années. C'était la bête noire de Safin. C'était exactement le même type d'opposition entre. Voilà. On a eu chez les Belges, il y avait Olivier Rocus qui était un super joueur, une super main. Bah, même format, 1m70, beaucoup de technique, super sympa à avoir joué. Mais tu sais d'entrée de jeu que c'est un gars qui sera jamais numéro 1 mondial. Quoi. Donc,
c'est plaisant à voir jouer parce que
bien sûr.
Ça sort des stéréotypes où tu as une marmule d'1m85.
Ah, mais
des Thiem, des Nadal, des Djoko et où ça va taper les ours. Là au moins, c'est vivant.
Ouais, effectivement, c'est un super joueur. Il a une super main, il est super beau à voir. Et le problème, c'est ce que je me dis toujours. Bah voilà, quel est le. Parce que l'entraîneur qui gère ce gars-là, ça doit être fabuleux parce qu'il a l'air en plus sympa. Et puis, il sent le tennis, il sent le jeu. Mais par contre, tu sais que d'entrée de jeu, c'est le pauvre garçon avec ses moyens physiques. Alors, je lui souhaite juste de réussir vraiment.
Les autres Français, parce que mon fils qui avait des super qualités.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est sûr.
Enfin, toujours mieux, mon fils il fait sa carrière. Hein.
Mais...
Toi, je sais très bien que pour toi, la carrière c'est soit t'es numéro 1 mondial, soit t'es rien.
Non, mais.
Mon fils il fait une carrière.
Il fait une carrière. Enfin, pas la carrière qu'on lui annonce quand il a.
Ouais, quand il a 17-18 ans.
Il fait des bonnes parties de poker le soir quand même.
Ouais, il joue bien au basket aussi. Je pense.
Mais ces deux exemples, c'est assez sympa parce que mon fils a été numéro 1 mondial chez les juniors, Santoro aussi. Et mon fils, autant on pensait qu'avec le physique qu'il avait, il pourrait faire la transition chez les adultes, j'allais dire chez les grands, autant Santoro, on savait d'entrée de jeu que ce serait trop limité. Et Santoro a fait une super carrière, mais il n'a jamais pu atteindre, il n'a même pas atteint un top 10, et il n'a jamais pu atteindre un dernier carré de grand chelem, etc., parce que trop limité physiquement. Quoi.
Déjà, Anne Cormier qu'on avait reçue ici, donc la championne mayonnaise de tennis, qui fait la pauvre, qui doit faire moins d'un mètre 60, enfin la pauvre, non, elle vit très bien son physique, hein. Mais elle fait moins d'un mètre 60, et je vous jure qu'elle vous passe des services, mais c'est impressionnant. Et là, le Hugo Gaston, c'est pareil, quoi. Le mec a 1m72 et il te passe des services de fou. Donc moi, je pige pas. Petit jeu, et on arrive à notre ami Julien. Julien, tu joues évidemment.
Ah, je t'interromps juste une chose. La pépite qu'il fallait voir à Roland Garros cette année, c'est quand même la joueuse qui gagne, la polonaise qui gagne. Qui a vraiment un super tennis.
Tous les ans, on nous sort une polonaise.
Ah ouais, mais elle a tous les coups du tennis, et c'est la première à gagner un grand chelem, hein, quand même. Donc.
La question était peut-être, est-ce qu'on va vers une nouvelle ère du tennis où tu nous dis que non, Fred, c'est toi le spécialiste, donc je vais te croire. Hein, on va rester donc sur les gros masters qui vont nous envoyer des énormes pêches au service.
Mais il y a quand même une nouvelle génération qui arrive, les Schwartzman, les Team.
Ouais, Schwartzman, c'est...
Schwartzman, ça fait un moment qu'il tourne quand même.
Un Italien aussi.
Lui, c'est très bien, Sinner. Sinner est très très bien.
Le fils de Corda aussi.
Ouais, qui est là aussi.
Des
ouais.
mecs d'une vingtaine d'années qui quand même pointent le bout de leur nez.
19-20, oui. Ouais.
Sinner impressionnant. Il fait un premier set contre Nadal. Assez impressionnant. Bon, il se blesse à la cuisse, je sais ce que c'est. à la suite, mais très intéressant. Ouais.
Corda, c'est quand même pas mal quand tu joues au tennis et que tu pètes tôt. Hein. On est d'accord. D'accord, donc juste pour finir, des physiques atypiques. Je vous donne un sport, le physique atypique qui va avec. En rugby, joueur de Clermont, numéro 10.
Ouais.
Morgan Parra, parle un peu en face du micro.
Enfin, c'est un 9, Parra, pas un 10. Hein.
Parra, physique atypique, ouais. hein, 1m80, ouais. 80 kg, on peut tous y aller, hein, sauf que lui, il se prend les masters dans la gueule, il a pas peur.
Mais c'est pour ça qu'il joue 9.
Messieurs, hein. Est-ce que vous avez un exemple d'un physique atypique?
Muggsy Box.
Ouais,
c'était son surnom pour.
On parle tous du même là.
Ouais, 1,60 qui a joué aux Hornets.
Hornets, voilà, c'est ça.
Même 1,59, je crois.
Volley, les gars. Évidemment, sport de grand.
Ah, Fabiani.
Ouais, peut-être. Ouais, moi, je vous aurais dit, là, faut connaître un peu, mais le libéro de Rennes, il y a 2 ans, là, je vous jure, il était à côté de Kevin Leroux. Kevin Leroux, c'est 2m11. Et à côté, le petit, il arrivait à la hanche.
Oui, mais il peut jouer, et du coup, il peut jouer qu'à un poste.
Il peut jouer que
libéro.
Un poste, mais il est là.
Oui.
Il est là, et il est phénoménal. Hein. Il est
phénoménal. Ouais, Fabiani était tout petit aussi, mais à la passe.
Et enfin, on finit avec la perche.
Lavillini, quoi.
Oui.
Qui n'est pas forcément un physique de perchiste et qui, on sait très bien la carrière qu'il a fait.
Mais ça, c'est justement, c'est une nouvelle génération. Perchiste, ça a été une nouvelle génération avec Lavillini, puis Duplantis maintenant. Ou c'est pas du tout des. Que Bouka, que génération Bouka.
Voilà, donc on va arriver.
Très beau jeu, Benoît.
Oui, mon Lionel,
Non, je voulais juste rebondir parce que je croyais que tu allais lancer une série quand tu as parlé de Schumacher et de Hamilton. En fait, tu t'es arrêté sur.
Et
qui font un peu de mal. C'est pas du mal, hein. C'est pas du mal parce que je respecte beaucoup Giroud.
Longtemps en arrière, quand même, là, dans le programme. Mais c'est pas
oui, mais c'est resté un petit peu dans un bout de ma tête et je suis pas du tout Giroud bashing. J'aime beaucoup Giroud. Mais c'est vrai qu'on entend les records qu'il fait tomber, là, du Platini, du Henry, du machin, tout ça. Je sais plus sur les buteurs, tu te dis c'est du lourd là.
Mais très bon exemple.
C'était pareil pour Henri qui bat le record de Platini, sauf qu'il a deux fois plus de sélections que Platini, quoi.
Ils ont commencé plus jeunes, les gamins. Oui.
Mais ne dites pas, vous pouvez pas comparer. On compte le nombre de buts, donc c'est facile à compter. Et si. Mais ça veut dire que t'as un physique de barge. Ça veut dire que t'as.
Non, c'est qu'il y a beaucoup plus de matchs internationaux par saison. C'est aussi simple que ça. Hein.
Ouais, mais à l'heure d'un Mbappé, il a dû commencer avec Anelka, il a dû démarrer avec des types énormes. Là, devant, il y a une concurrence de fous furieux en équipe de France. Hein. Et le Giroud, il est là. Hein. Il est là.
On est 100% d'accord. Mais
ça, c'est pas le problème. Le mec, c'est l'équipe de France. Donc, c'est le top du top du top. S'il est sélectionné, c'est que c'est le meilleur.
Moi,
je remets pas en cause.
C'était sur le record, mais moi, je remets en cause le record d'Henri par rapport à celui de Platini. Quoi, par exemple,
ils sont encore loin du record de CR7
qui n'est pas encore qui est à 102
qui a plus de 100 buts
101 ou 102 et le record à 109
Eusebio
non je sais plus c'est un
iranien
c'est ça et c'est 109
Oui, d'accord, ouais.
Okay. Et Neymar qui vient deuxième meilleur buteur du Brésil.
Ouais, aussi.
Devant
ouais.
R9.
Aussi. Voilà. Aussi, on va enchaîner puisqu'on est sur le football, Nicolas. On va enchaîner avec notre invité.
Là, on perd Nico.
On se fait donc le plaisir de réinviter Julien puisque ça fait 10 minutes qu'il est là. Et nous, Julien Taliou. Julien, c'est un thème qui nous tient à cœur ici, le fait de gérer un groupe B. Tu viens de prendre à forcer, petit village charmant à côté de Laval, tu viens de prendre l'équipe réserve. Toi qui étais un joueur de première, tu découvres un peu cette fonction. Alors tout de suite, tu vas nous parler de tes impressions, de comment t'en es venu là déjà, et ensuite tes premières impressions, puisque pour l'instant, on en est à 3 matchs de championnat.
Tout à fait. Alors, pourquoi j'en suis là? Parce que tout simplement j'avais envie de lâcher un petit peu de lest au niveau du football. Je m'aperçois qu'en fait j'ai raté cet objectif là puisque pour l'instant ça me prend plus de temps que quand je jouais en équipe première, c'est à dire que je faisais deux entraînements par semaine plus le match.
Le calcul est couillon,
mais
n'importe quel entraîneur il te dira que c'est plus prenant.
Ouais, alors je me suis dit bon, c'est le début, c'est normal, je connais pas les joueurs, donc il faut que j'aille aux entraînements, et ça c'est ce que j'avais dit. Tout le mois de septembre je vais aux entraînements pour connaître les nouveaux joueurs. Ce que je n'avais pas calculé, c'est tous les à côté, c'est-à-dire les appels aux joueurs mécontents qui ne vont pas en équipe première, les appels des joueurs que je redescends en équipe C parce qu'il faut que je fasse des choix, les appels avec le coach de l'équipe première pour se mettre d'accord sur les entraînements. Enfin bref, tout un tas de petits à côté, que je n'avais pas prévu.
Et qui vont au-delà de ça aussi, parce que tu me racontais que on considère qu'on joue le dimanche après-midi.
Ouais.
Tu passes tes dimanches matins avec bon, bah non, machin est trop sous de la veille, ah machin il a pas les bonnes chaussures.
Ouais, alors
protège.
Et ça, je le découvre encore plus puisque là on joue à un niveau district qu'on avait un petit peu moins au niveau régional, mais c'est vrai que les appels du dimanche matin, je les découvre. Donc il y a ça aussi à gérer en plus, donc trouver des joueurs de dernière minute pour remplacer ces fameux joueurs qui sont trop sous ou qui sont subitement malades le dimanche matin. Donc voilà, il y a ça aussi, les appels du dimanche matin à gérer. Ceci étant, ça reste quand même un plaisir pour moi d'avoir pris ce poste. Mais
toi,
c'est vrai.
Mis, très clairement, t'avais mis un petit peu ta carrière. Enfin, évidemment, carrière,
mais oui,
par rapport à certains
ouais.
qu'on a reçus. Hein. Ouais. Mais voilà, tu avais encore ce niveau région. C'est un choix pour toi de
Choix parce que j'avais besoin de prendre du temps aussi pour ma famille. J'avais envie aussi de rejouer avec des copains dont tu fais partie, Benoît. Voilà, pour tout un tas de raisons, j'ai pris ce poste et je ne le regrette pas pour l'instant. Mais il est vrai que j'y passe pas mal de temps. Maintenant, je vous dis, ça, c'est peut-être aussi le début d'une saison et que les choses vont se lancer, que les choix vont peut-être être plus faciles à faire parce qu'il y en a qui vont lâcher un peu ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette année, en plus, on a énormément de nouveaux, donc on a un gros effectif. Donc c'est pareil, de nombreux joueurs aux entraînements. Donc moi, à l'origine, je ne devais pas faire tous les entraînements. Sauf que bon, l'entraîneur général se retrouve avec énormément de joueurs à gérer sur en plus un petit terrain, donc voilà, il a besoin de monde aussi, donc voilà, pour l'instant du temps.
Oui, Benoît nous a présenté comme étant un leader de groupe d'équipe B.
Oui.
Est-ce qu'il y a des équipes C, D, je ne sais pas.
Oui, justement.
Alors, quelle est la problématique avec ces...
Alors justement, oui, d'où cette année, on a 4 équipes à forcer. Donc il y a une équipe C, une équipe D.
C'est encore plus sous en C et en D.
donc du coup, je reçois, comme toute équipe B, je reçois des mécontents de l'équipe première. Qui redescendent en équipe réserve parce que l'entraîneur général de l'équipe A n'a pas le choix et il doit prendre que 14 joueurs sur sa feuille. Donc voilà, c'est comme dans tous les clubs, hein, il faut gérer les mécontents, mais Bon, pour l'instant, ça se passe bien, mais du coup, c'est beaucoup de communication. Donc, j'attache à... Voilà, aussi, c'est peut-être moi qui passe du temps, mais je trouve que communiquer avec les joueurs, c'est aussi, après, du temps de gagner.
Parle-nous de ton discours dans le vestiaire, justement, par rapport à ces mecs qui descendent ou par rapport à ces mecs qui remontent. Est-ce que tu as des mots spécifiques pour eux ou non, tu fais un discours global ?
Alors, j'ai pas forcément un discours individuel dans le vestiaire par rapport à ces joueurs-là. Par contre, je vais avoir un discours en amont, soit dans la semaine parce que je sais que je vais les avoir, ou soit dans le week-end, juste avant le match. Oui, évidemment, j'ai un discours avec eux parce que bon, j'ai pu passer aussi par là durant ma carrière, entre guillemets. Mais, donc, je sais qu'il faut que je porte un aspect particulier sur eux. Donc oui, je leur dis que il faut pas qu'ils jouent leur carte individuelle comme c'est souvent le cas parce qu'ils essayent de se montrer forcément, mais plus faire briller le collectif. Alors après c'est facile à dire, hein, mais évidemment moi je reste en contact avec le coach de l'équipe première. On s'appelle tous les dimanches soirs ou le lundi pour faire un bilan justement sur ces joueurs-là. Mais j'attache énormément d'importance à l'état d'esprit.
Et justement,
on sait que c'est difficile. Excuse-moi, je finis, Lionel. On sait que c'est difficile pour un joueur de région de venir jouer en district parce que le jeu n'est pas forcément le même, les terrains ne sont pas forcément les mêmes pour se montrer. Alors j'attache pas forcément évidemment je regarde la performance individuelle, mais j'attache énormément d'importance à l'état d'esprit. Surtout si le joueur a pas un bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il arrive en boudant parce que on sait qu'il est mécontent et que sur ce qui peut se comprendre, tout à fait, mais s'il le transpire trop, moi évidemment ça va m'agacer, et c'est ce que je dis souvent, ça va agacer les autres aussi. Donc c'est pas un point positif qu'il renvoie aux autres et aux coachs de l'équipe B. Voilà, j'ai ce discours d'état d'esprit surtout.
Parce que je voulais savoir si tu avais vraiment connu ça. On l'a tous vécu. Le gars qui a signé dans le club pour jouer en équipe première, il se retrouve en B et t'as des gars qui sont infects, qui respectent pas du tout le coach, qui respectent pas les consignes, qui traînent des pieds, qui courent pas, et puis si, par malheur, l'entraîneur ose lui dire quelque chose, il envoie bouler tout le monde parce que monsieur est la star et qu'il ne comprend pas pourquoi il est en B. Quoi.
Alors pour l'instant, je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas parce que... Oui, ça existe, bien sûr. Je n'ai pas le cas parce que déjà, on est en début de saison, donc les choix ne sont pas encore définis. Hein. Tout le monde a encore sa chance. Il y a évidemment des déçus, mais c'est ce que je leur dis. Hein. La saison, elle vient juste de commencer. On sait très bien qu'une saison, c'est long et qu'on a toujours une chance à un moment donné. Donc pour l'instant, j'ai pas le cas. Et de toute façon, s'ils se le présentent, je suis assez clair avec eux. C'est que moi, je suis pas là du tout pour gérer ce genre de comportement. Et je l'ai dit pendant tous les matchs de préparation. Je ne m'ennuierai pas, je vais être poli, je le suis un peu moins avec eux dans les discours, je ne m'ennuierai pas avec ce genre de comportement. C'est-à-dire que si il vient en traînant des pattes, que ce soit dans les vestiaires, dans l'échauffement ou dans le match, ça va le faire une fois, mais ça ne le fera pas deux. C'est-à-dire qu'on a des équipes C et des équipes D, donc je me permettrai, oui, de l'envoyer en C. Et s'il n'est pas content, on a un effectif cette année qui le permet. Peut-être que sur d'autres années à forcer, on n'a pas pu le faire, les coachs n'ont pas pu le faire. Cette année, je ne m'en priverai pas parce que j'ai d'autres joueurs. Et comme je l'ai dit, je préfère prendre un joueur un peu plus faible au niveau de ses compétences, mais qui a un gros état d'esprit, plutôt qu'un joueur qui est plus fort techniquement, mais qui va traîner des pieds.
Voilà. Et au risque de perdre certains, tu peux...
Au risque de perdre certains, après, je vous dis, moi, pour l'instant, j'essaye d'avoir une grosse communication. Maintenant, évidemment, je pense que je vais avoir le cas cette année, hein. Et peut-être que j'en ai qui me feront la gueule. Mais voilà, pour l'instant, j'essaye de communiquer un maximum. Pour l'instant, c'est le début, donc j'ai pas le cas. Peut-être que je reviendrai en fin de saison, vous refaire un petit bilan pour vous dire ça.
Sera le bienvenu. Ouais, Lionel, juste, c'était le... Tu sais peut-être mieux que moi, au haut niveau, quand donc, il y a cette fameuse première équipe qui joue en Ligue 1, et bah, forcément, les mecs, c'est des groupes de 25-30 professionnels, donc t'en as un paquet sur la touche. Alors, est-ce que ces mecs, quand ils n'ont pas le niveau d'être dans les 11 ou les 14, carrément ne jouent pas, ou descendent en B, et s'ils descendent en B, je crois que c'est de la CFA, enfin c'est de la...
CFA ou CFA 2,
ouais. Ça s'appelle N2
ou N3
maintenant. Est-ce même que c'est mecs qui jouent ou est-ce que t'en as vraiment qui jouent pas le jeu, mais c'est pas grave, ils ont leur statut de professionnel, donc ils savent qu'ils vont remonter. Moi, c'est ça aussi que je...
Alors, tout le monde ne va pas jouer en équipe réserve. Hein. Tous les professionnels qui ne sont pas dans le groupe le samedi ou le vendredi soir, bref, ils vont pas tous jouer en réserve. C'est un accord avec le joueur, c'est une discussion avec le joueur. T'en as qui préfèrent justement aller faire un match avec l'équipe réserve pour se maintenir, pour maintenir le rythme.
Donc, ces mecs sont payés à rien foutre, quoi. Si tu refuses d'aller jouer en B, c'est comme ton club, quoi.
Clairement, alors, rien foutre non, mais à pas jouer le week-end.
Clairement, dans les clubs de Ligue 1, quand t'es dans le groupe de l'équipe première, entre guillemets, quand t'es dans les 25, maintenant il y a très peu à aller jouer en réserve. Très peu. Incroyable. Mais c'est aussi pour des questions de blessures.
Oui.
Ouais, et puis c'est pour ça qu'ils
peuvent pas prendre la place. Si tout le monde allait jouer, si tous ceux qui étaient pas dans le groupe le week-end allaient jouer en réserve, du coup ça laisse plus place, comme tu dis, aux jeunes aussi qui sont là en formation, hein, faut pas l'oublier, ou en post-formation. Donc tous les joueurs ne vont pas en équipe réserve.
Alors, ça c'est vrai pour les Ligue 1, c'est un peu moins vrai pour les Ligue 2, etc. Oui. Et c'est ce qui pose problème. Enfin, l'enfer des clubs pro, j'allais dire entre guillemets des petits clubs pro ou des clubs qui ne sont pas dans l'élite, c'est que les équipes B, c'est l'enfer, puisque personne ne veut jouer. Ouais. Les gars traînent clairement des pieds. Ouais. Enfin, c'est pour le coach, c'est une voie de garage, hein, c'est une impasse.
Pourtant, tu vois, avec tous ces joueurs qui sont prêtés à droite à gauche, tu as des clubs qui prêtent Monaco, ils prêtent 50 joueurs par saison.
Ah, mais ils préfèrent les prêter pour qu'ils jouent en première à un moindre niveau que de les voir. L'objectif.
Tu vois, nous, on entend.
Et puis, s'ils ont un niveau supérieur.
Nous, dans ces petits clubs, on entend vraiment nos équipe B comme des antichambres de la première. Donc si tu brilles en B, l'entraîneur de la B va parler à
on vivait ça il y a 20 ans. Enfin, moi j'ai souvenir du Stade Lavallois en première division. L'équipe B joue en troisième division, donc ce serait l'équivalent du national actuellement. Et c'était vraiment l'antichambre. C'est-à-dire que là, on voyait les joueurs. Exactement. L'état d'esprit était différent, le niveau était différent. Tandis que maintenant, un gars qui vient pour jouer en équipe première, il vient pour être dans le groupe des 25. Et je veux dire, s'il joue pas, il va certainement pas aller en réserve.
Et pour certains, c'est peut-être spécifié dans les contrats également.
Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, il y a ça aussi. On continue tout de suite avec Julien. On se fait notre petite coupure musicale. Lionel, tu voulais intervenir sur
la... Juste pour rester, mais peut-être pas trop longtemps sur ce sujet, parce que tu as parlé de problèmes humains là. Et c'est vrai que c'est passionnant ce que tu racontes, parce que c'est là, on est dans la réalité du vestiaire. Hein. Mais tu l'abordais d'un point de vue, et j'imagine très souvent, individuel. Mais est-ce que tu rencontres des problèmes collectifs? C'est-à-dire, c'est pas un qui pose problème, c'est un petit groupe de copains, là, ou je sais pas quoi, qui se connaissent et qui font un peu bloc à 5, 6, je sais pas.
Et prends le temps de réfléchir, Julien. On vous retrouve juste après la coupure musicale. À tout à l'heure, chers auditeurs, chères auditrices.
Down.
Allez, vous êtes encore avec nous, vous êtes encore sur la seule émission qui subsiste, Sport Épique, oui, Sport Épique, oui. Vraiment.
Et une programmation musicale extraordinaire, vraiment, on la goûte, on la goûte.
Lionel, on était sur ta question cruciale, Julien.
Je vais essayer de la résumer, Jules. Donc, les problèmes humains peuvent-ils être collectifs ?
C'est à ça aussi que je m'attache, c'est de créer une ambiance de groupe. On sait que l'équipe B, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on sait que l'équipe B varie de week-end en week-end. J'ai très rarement le même groupe, pour ne pas dire jamais. C'est-à-dire que le groupe évolue. Maintenant, j'ai quand même une ossature. Je sais très bien que je vais avoir des joueurs de l'équipe première qui vont venir avec moi, pas toujours les mêmes, et j'essaye de prendre quelques joueurs quand je peux du groupe C aussi pour venir avec moi. On a essayé de créer avec quelques joueurs en début d'année, Benoît en fait partie, des petites choses pour créer une ambiance de groupe un peu spéciale à l'équipe réserve. Pour l'instant, on y arrive à peu près. C'est vrai que l'ambiance fait partie de l'équipe réserve chez nous pour l'instant.
Donc Benoît, c'est le Ribéry de Forcé.
Sauf que lui, il jouait bien. En plus.
Mais je crois que Benoît parle un peu mieux.
Mais ce qui conduit le car.
Quand on parle d'équipe B, c'est pas évident de parler de créer une ambiance. Parce qu'une dans une équipe B, il y a un turnover de dingue. Et
c'est pour ça que je disais, il faut une ossature que pour l'instant on a. Après, aux joueurs qui viennent aussi de se greffer et de rentrer dans cette ambiance-là. Et on va le voir très vite, hein, tous ceux qui vont pas rentrer dans cette ambiance-là vont se mettre un petit peu de côté. Et moi, je ferai aussi mes choix en fonction de ça. Voilà.
Moi, j'ai une question en termes de niveau. Est-ce qu'il y a un écart important entre votre équipe première et votre équipe B?
Oui, l'écart, il est trop important. On a 3 divisions. Donc, l'objectif, nous, c'est de faire monter l'équipe B cette année. Alors, évidemment, sans faire descendre l'équipe première.
Ouais, ce qui resserrerait
trop, du coup. Mais l'objectif de l'US Force Réserve, c'est de monter d'une division.
Alors, moi, on me dit, Fred, puisque toi, tu connais le football départemental et de ligue également, puisque tu as eu ta petite carrière, on me dit, Julien me dit, viens signer en D3, donc pour les non-connaisseurs, derrière, il n'y a plus que la D4. Hein, donc, tu vas voir, on va avoir une équipe de tueurs, on va monter facile, on va...
Ah non, je t'ai jamais dit ça.
Ça va bien se passer, machin, truc, chose. Eh putain, tu joues tous les dimanches, là, ben, en face de toi, t'as que des mecs affûtés. T'as que des mecs qui savent jouer. Nous, c'est vrai qu'on a une très belle équipe avec des vrais bons gars, mais on n'est pas au-dessus du lot, ben parce que la Détroit, ben ça joue au foot quand même. Donc, pour tous ceux qui ont une image qu'en France, il y a la Ligue 1 et Ligue 2 qui jouent au foot, ben je peux vous dire que jusqu'en bas, ça joue. Et moi, je suis assez étonné de ça. Et bravo à tout le département. Parce que tout le monde a son niveau.
Je trouve ça génial, entendu Benoît Yvain dire la D3, c'est un niveau phénoménal.
Mais je crois qu'on est dans une époque où les clubs essayent de proposer quelque chose qu'il n'y avait pas forcément il y a peut-être 10 ans. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup d'équipes qui proposent des choses et qui sont cohérentes. Alors après, on a aussi beaucoup d'équipes premières dans notre groupe, donc de petits villages. Mais il y a ça aussi à prendre en compte.
T'as un Benoît dans 6 mois, le vétéran, tu vas nous dire c'est fabuleux, les avions de chasse.
Non, mais là, tu parles de jeu, donc on parle plus technique. Donc tu parles que les équipes proposent plus de jeux. Mmh. Soit. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'on s'est souvent fait ces réflexions-là sur l'Irlande, les joueurs de rugby en Irlande des années 80-90. Tu les vois gros lard dans leur maillot beaucoup trop grand, machin. Mais là, je vous jure, on est en Détroit. Moi, je comptais vraiment tomber contre des soulards, des machins. Ben non, tout le monde est affûté. Tout le monde a une vraie tête de footeux, une vraie dégaine de footeux.
Mais c'est vrai que ça, c'est un des objectifs du district de la Mayenne, le resserrement du niveau. Ils jouent plus au foot.
Ils jouent dans d'autres sports.
Ils font du rugby en Irlande. Mais
ce que tu dis, ce sont que des équipes premières.
Il n'y a pas que, mais beaucoup.
Même dans un petit village, dans une équipe première, ça a l'objectif de jouer un peu. Mmh. Moi, j'écoute ça attentivement parce que un vestiaire de foot, j'ai jamais connu. Enfin, un vestiaire de sport collectif, j'ai jamais connu. Mais en fait, pour être entraîneur, il faut avoir une maîtrise de psycho.
Oui, je te le confirme.
C'est
oui.
ça le plus gros bagage.
C'est vrai que la gestion des égos, quand on entend les grands coachs dire qu'ils gèrent les égos, mais c'est vrai que à tout niveau, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont un boulard terrible alors qu'ils jouent en 3ème div ou en 2ème div.
Mais c'est une grosse partie du job. C'est une grosse partie du job parce que, comme disait Benoît tout à l'heure, si on veut pas perdre certains joueurs, on est obligé de passer par énormément de communication et énormément de psycho, comme tu dis, Nico. C'est une grosse partie du boulot, en plus du technique et en plus des entraînements. Voilà.
Mais alors le pauvre, parce que moi je le vis avec lui, c'est que nous on finit l'entraînement du vendredi soir, on finit l'entraînement, donc il y a toujours, je pense dans beaucoup de clubs c'est comme ça, il y a toujours la petite bouffe entre joueurs, et tant qu'on est joueur, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à côté. Donc on est en train de rigoler entre nous, machin, et Julien, qui en plus de devenir psychologue, fait encore entraîneur-joueur. Donc j'imagine que toi aussi t'aimerais bien venir boire un coup avec nous et bouffer avec nous. Ben non, c'est le moment où ils se réunissent les quatre entraîneurs et
pour
là,
les fameuses convocations.
Là tu les vois partir pour une heure et demie dans le bureau. Les mecs ils passent une heure et demie et on est à des niveaux, attention hein, on n'est pas à des gros niveaux hein. Donc tu t'es dit, oh la vache, il faut vraiment avoir une vraie volonté, ça doit être vraiment une passion hein, de s'investir dans ce truc-là.
Bah parce que à notre niveau, malheureusement, il faut qu'on appelle certains joueurs pour savoir s'ils sont disponibles, pour savoir s'ils reviennent de blessure, pour savoir s'ils sont pas partis en week-end. Enfin, c'est énormément de contraintes à ce niveau-là. Ouais. Et puis pour aussi faire les bons choix, parce que mine de rien, on sait qu'on va décevoir certains. Donc voilà, on se pose les bonnes questions.
Alors en termes de jeu, comme tu es coach numéro 2 entre guillemets, comme tu es coach de la B, je voulais savoir si le coach de la première, il t'avait donné des indications aussi sur, je sais pas, une volonté d'organiser l'équipe B à l'image de l'équipe première, d'avoir un style de jeu. Alors je sais pas si on va jusqu'à prétendre ça, mais au moins qu'il y ait une philosophie pour que justement un gars qui puisse monter en première, bah, il ne soit pas perdu. Et à l'inverse, ce gars qui descend de la première pour jouer en B, qui retrouve certains automatismes.
Alors, moi, je suis assez libre, pour ne pas dire complètement. Donc, non, à ce niveau-là, je n'ai pas de contraintes. Par contre, j'essaye, moi, mais ce n'est pas non plus obligé de la part du coach de l'équipe première, hein, mais j'essaye de faire jouer les joueurs qui descendent de l'équipe première au poste auquel il joue dans l'équipe du dessus.
Donc le gars qui était remplaçant le dimanche d'avant.
Non, alors là, du coup, par contre, ouais, ça c'est clairement pas évident. C'est-à-dire que moi, entre guillemets, je suis un peu obligé de faire jouer des titulaires, un gars de l'équipe première qui descend avec moi, alors que éventuellement à son poste, moi, j'avais des satisfactions
ouais,
la semaine d'avant.
Un gars qui a brillé la semaine d'avant.
Voilà. Donc c'est tout ça qui n'est pas évident quand on est coach de l'équipe réserve.
Oui, donc, il vaut mieux être coach de l'équipe la C ou la D, la 3ème ou la 4ème.
Tu t'emmerdes de moi. Ouais.
Tu passes de bons moments avec tes copains. Et puis...
bah, généralement, l'équipe, la dernière équipe, c'est un peu plus le foot loisir, le foot entre copains. Donc, il y a moins. C'est
le foot irlandais.
Ouais.
Tu vis ça, toi, Fad, tu peux témoigner. Là.
Ouais, je suis en première, en vétéran. Il n'y a qu'une équipe. Mais,
Et Ju, Fred te parlait tout à l'heure de cette cohérence A-B. Évidemment, notre modèle sous l'ère Arnaud Fisson, ça a longtemps été Barcelone et la Masia. On sait qu'un gamin au FC Barcelone, à partir de ses 12 ans, il va jouer en 4-3-3 et il va exactement savoir qu'est-ce qui va se passer dans le schéma de jeu. Est-ce que justement tu as parlé avec Julien Favier qui est l'entraîneur de la première, est-ce que vous avez une technique de jeu spécifique au club de forcer ou non, la A joue d'une certaine manière, la B, la C, la D?
Ça serait bien, on ne l'a pas parce que voilà, on ne s'est pas forcément mis d'accord dessus, mais non, on n'a pas cette cohérence justement du style de jeu. Je sais que lui, il est sur un autre système. C'est vrai que ça serait bien et ça serait mieux pour les joueurs et ils s'y retrouveraient mieux aussi, dans les deux sens d'ailleurs, hein, pour un joueur de l'équipe B qui monte en première, mais pour aussi un mec de l'équipe première qui descend en B, il y aurait plus de cohérence. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui arrive au club, il a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que sur une deuxième année, on se mettra d'accord sur ça. Mais cette année, non.
Toi, on ne t'a rien imposé.
On ne m'a rien imposé.
On n'a pas au système de l'équipe première.
Mais je te rassure, au Barça, ils ont arrêté aussi. Hein. L'équipe première ne joue plus du tout comme les autres.
Ah ouais.
Il n'y a plus de cohérence. Hein, donc,
Voilà, Julien. En plus, toi, comme je disais, tu as quitté l'équipe première bah, donc en fin juin, fin non, avec le
Covid. Non, avec le Covid, je n'ai pas pu dire au revoir à l'équipe première.
Mais Julien a l'énorme prétention d'être entraîneur-joueur pour sa première année. Ouais. Comment ça se passe? Alors, toujours, je reviens sur Arnaud, hein, notre entraîneur mythique, qui lui était entraîneur-joueur, pour le coup, en R3, et qui faisait ça d'une manière, mais... extraordinaire. Je vous jure que vous arriviez à la mi-temps. Le mec, il avait fait sa mi-temps aussi. Il avait joué en 6, il n'avait pas économisé ses efforts physiques. Il arrivait à la mi-temps, il vous détaillait tout. Faites gaffe au numéro 7, faites gaffe au numéro 9, achat. Jouez plus ceci, cela. Incroyable. Comment
alors,
toi, tu vis ça?
Je profite de ce petit micro pour lui tirer mon grand coup de chapeau parce que là, je me rends compte encore plus étant dans ce rôle. Non, c'est très, très compliqué. J'en parlais avec un joueur cette semaine. J'ai l'impression du coup de ne pas être concentré à 100% sur moi, mon jeu en tant que joueur, parce que je suis obligé d'observer à la fois collectivement mon équipe, mais aussi individuellement pour corriger des choses à la mi-temps. Donc c'est vraiment très compliqué, sachant que dans les 5 dernières minutes de la mi-temps, enfin juste avant la mi-temps, je pense aussi à ce que je vais dire à la mi-temps. Donc c'est très très compliqué.
C'est pour ça qu'on a pris ce but dégueulasse alors dimanche.
Oui,
dernier,
peut-être. Non mais c'est vraiment difficile, sachant qu'aussi il y a toute la préparation d'avant-match où bon, moi je m'habille en même temps que les joueurs, je suis aussi, même si j'ai le discours qui est préparé, voilà, il faut déjà aussi que je pense à mon échauffement d'après, enfin voilà, c'est très prenant pour moi physiquement et mentalement, et du coup je tire un grand coup de chapeau à Arnaud pour ça, parce qu'il faisait ses matchs en tant que joueur et il arrivait très bien à analyser. Moi j'ai l'impression d'arriver à la mi-temps où bah, clairement il me faut 5 minutes minimum pour déjà souffler. Et puis en même temps, bah, je réfléchis à ce que je vais pouvoir dire aussi.
J'aurais aimé que tu le dises tout seul, mais bon, je vais le dire à ta place. Est-ce que tu as pris des relais dans
l'équipe
pour,
alors, heureusement,
te seconder peut-être, Julien, dans cette tâche très difficile.
Heureusement, j'ai trouvé un bon relais, mais j'en ai aussi quelques anciens qui tiennent ce rôle. Mais c'est vrai que j'ai un bon relais qui est autour de cette table, qui m'aide.
Tu joues forcé, Lionel.
Qui m'aide dans ma tâche et qui me complète dans mon discours. Donc ça, c'est ce que je lui disais encore cette semaine, c'est reposant. C'est reposant d'avoir voilà, quelqu'un qui va amener aussi autre chose, mais qui vient en complément surtout. Voilà, qui va pas forcément plagier mon discours, mais qui va apporter autre chose, mais en complément. Donc ça, c'est aussi reposant pour moi. Et c'est vrai que dans le vestiaire, quand... Bon, voilà, Benoît, on sait que c'est toi maintenant. Quand tu interviens, moi, ça me décharge un peu. Ça me permet de souffler. Et du coup, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Donc,
Mais ça, c'est vrai que c'est vrai pour tous les coachs, pas forcément pour les entraîneurs-joueurs.
Tu as
intérêt à avoir quelques gars qui viennent te confirmer ou qui viennent t'accompagner, parce que c'est important. D'avoir ça au sein de...
Est-ce que face à un Mourinho, alors évidemment on va prendre les grands noms qu'on connaît, hein, est-ce que face à un Mourinho, toi t'es dans le vestiaire, tu te permets d'ouvrir ta tronche?
Je suis sûr qu'il a des relais. Ouais, clairement. Ouais.
Parce que Jules, en plus, t'as pas d'adjoint, donc c'est vrai que t'as pas de mecs sur la touche qui peuvent te détailler le truc, quoi. C'est que toi, t'es ton ressenti sur le terrain et c'est pas simple. Comme
c'est
disais,
très compliqué.
Parce que si je veux dire, quel que soit le niveau, enfin dans les grandes équipes, il y a forcément un grand entraîneur, mais il y a les grands joueurs. Et les grands joueurs, c'est aussi des gars qui savent passer les relais, qui savent aussi quelquefois orienter le coach en lui disant bah non, on va plutôt faire ça que ça. Ou donc c'est toujours en symbiose, quoi.
De la symbiose, tout à fait. Merci beaucoup, Julien. T'as
rien.
Peut-être des choses à ajouter?
Non. On a été assez complet, je trouve. En résumé,
voilà.
Le poste de coach d'une équipe réserve est très compliqué. pour tous les tas de points qu'on a soulevés ce soir. Mais pour moi, ça reste plaisant. Ça reste une belle découverte. Je dis pas que je ferai ça pendant 10 ans, mais voilà, je vis l'aventure à fond. J'espère qu'en fin de saison, je pourrai venir et dire que j'ai passé une super année, que j'aurai rempli l'objectif formulé par mon club en début de saison, et que je repartirai, pourquoi pas, pour une deuxième saison.
Très très belle conclusion, Julien.
Et Benoît, t'es en C dimanche prochain. Voilà.
Je peux pas, il a besoin de relais. Tu restes avec nous, Julien.
Je reste avec vous. Je reste avec vous.
On enchaîne. Et merci, merci vraiment, merci beaucoup.
De rien.
Parce que c'est sûr que à l'honneur, on va toujours avoir les grands noms de l'équipe Fagnon, les grands noms sur des feuilles de match. Et là, ça fait plaisir aussi de voir l'envers plutôt.
D'ailleurs, on a oublié de te demander une dernière chose, Julien. Est-ce que ton ambition, c'est de devenir coach de l'équipe première?
Aucunement. Aucunement, parce que je vois déjà le temps que ça prend pour coacher la réserve. Coacher l'équipe première, ça voudrait dire qu'il faut que je sois là tous les entraînements. Et ça, c'est juste pas possible pour l'instant. Voilà. J'ai ma vie de famille que je vais prioriser.
Bonsoir,
voilà.
Lionel, je lui ai demandé de travailler et Lionel a travaillé quasiment toutes les semaines.
Je ne travaille pas pour toi, je m'amuse pour toi. Voilà, non, je voulais rebondir sur un petit peu notre invité, c'est-à-dire les équipes B. C'est pas les équipes B, c'est plutôt mettre en avant des équipes de seconde zone, de D2 notamment. Ouais. Et regardez, faire un petit quiz, mais je pense que vous allez tous être très très bons à ce jeu-là. Voilà, sur une question très bête, quelle est... Citez-moi un club de D2 qui a remporté la Coupe de France.
Ouais.
Oui.
Oh la vache. Ben. C'est le Red Star.
Non.
Auxerre.
Non.
Lens.
Non.
C'est récemment?
Il y en a un, c'est relativement récent.
Un Breton?
Calais. Mais non, c'était pas Calais.
Guingamp
2009, Guingamp. Il y en a un autre.
Attends. Non, ils descendaient en Ligue 2. Non, ils étaient en Ligue 2.
Ils étaient en Ligue 2. Club de D2 qui a remporté.
Contre Rennes, ça c'est sûr. À chaque fois, il y a une
Rennes. Ouais, TML2, voilà. Il y a eu un deuxième, c'est Le Havre en 59. Alors, citez-moi un autre club de D2, un ou deux, hein, peu importe, qui a fait la finale.
Moi.
Calais. J'ai aussi.
D2.
Sur la.
D2,
sur une finale de Coupe de France ou Coupe de la Ligue ?
Finale de la Coupe de France.
Ouais.
Allez.
Bah si, il y en a eu plein. Ouais.
Ah, il n'y a pas eu tant que ça.
Guignon.
Non.
Ah, c'est Coupe de la Ligue. Ouais. C'est Coupe de la Ligue Guignon alors.
Non.
Nantes qui a été à un moment.
Non. Bon, là, je ne vais pas vous faire.
Sochaux.
C'est pas si vieux que ça.
Sedan.
En 2004, il y a eu. Châteauroux en 2004.
Ah ouais.
Châteauroux en 2004. Et en 2005.
On sait même pas où c'est, Châteauroux.
Et en 2005, Sedan, rappelez-vous.
Ah, j'ai dit Sedan. Ah,
oh, pardon.
Les sangliers des Ardennes.
Excuse-moi.
Les Ardennes.
Avec Pius Ndiaye.
Attention, maintenant, je vous parle d'un club de D3. Alors, c'est peut-être national. Non. 2018.
Les Herbiers.
2000. Non, finaliste.
Finaliste contre le Paris Saint-Germain.
Finaliste.
Extraordinaire.
2012.
Avec un ancien Lavalois dans les buts.
2012, oui. Ça a l'air très très fort.
Comment, Coupe de France, ouais.
2012, c'est pas vieux.
Bah, il connaît que Lens, Julien.
Non, les Herbiers aussi.
Ouais, 2012.
Et bah, Calais.
Non, 2012. Hein. Quevilly.
Ah, Quevilly,
encore. Voilà.
Ouais.
Finale, Quevilly. Finale. Un 2001, c'est un peu plus vieux, mais enfin, ça encore. C'est Amiens.
Calais.
Citez-moi un club de D4 qui a disputé une finale.
Ah, Calais.
Calais.
Ouais. C'est la mer Noire.
Il a fini par Calais.
C'est ça,
oui. Oui, j'en ai d'autres, mais c'est toi qui décides.
Du coup, Julien, là, on parle des exploits de Coupe de France. Évidemment, ça fait rêver tout le monde. Hein, les petits poussés, on est toujours pour le petit, machin, truc, chose. Toi, mon pauvre, t'as même pas de coupe à jouer, je crois.
Ah si, tu la joues pas, mais on en a une. Mais...
Ah, il y a une.
Oui. Nous avons le challenge du district.
Pour lequel cache ta joie, Nico.
Pour lequel nous sommes qualifiés pour le troisième tour. Voilà. Ce jouera le 1er novembre.
Nico, bravo. C'est du Nico, alors évidemment. Ah, c'est pas la Ligue des Champions.
C'est notre petite Ligue des Champions.
Merci beaucoup, Lionel. comme il n'y a que toi qui prépare des choses, ça me fait très plaisir à chaque fois. Je vais te dire, les deux autres feignants, il n'y a pas lourd. On a tous regardé, messieurs, cette semaine l'équipe de France. On en est à quoi ? Deux matchs là où on est déçus, voire plus que déçus. Est-ce qu'on arrête l'ère des champs définitivement, ce que je réclame depuis longtemps avec mon ami Gilbeau ? Est-ce qu'on continue à s'ennuyer profondément ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?
Oh non, là, pour défendre Deschamps, c'est la période qui veut ça. Tu regardes n'importe quel match, on sait très bien que les joueurs en octobre, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, ils viennent, ça fait une cape en plus. Pour certains, ça leur permet de débuter, de découvrir, je ne sais pas, de prendre les mesures pour le survêt, un truc comme ça. Mais c'est vrai pour toutes les équipes. Si tu as suivi un peu les dernières rencontres de Ligue des Nations... Bon, c'est que des équipes laboratoires, prototypes, tout ce que tu veux. Même Neuer, il s'est tellement embêté avec les Allemands qu'il s'est mis à faire des boulettes parce qu'il s'est dit quitte à faire des conneries, autant les faire à ce moment-là, personne ne regarde.
Donc, ouais, mais toi, tu es un personnage inamovible des finances, tu sais très bien que tu es titulaire à vie, mais moi je trouve que quand tu fous le paletot bleu, quelle prétention tu peux avoir pour dire ce match-là, je peux le prendre un peu par-dessus.
Mais non, mais le problème, c'est
que je suis.
Mais c'est pas les nouveaux.
Mais le statut, Nico, t'es en équipe de
c'est
France.
Pas ceux qui mettent le paletot pour la première fois qui jouent pas le jeu. Eux, ils jouent le jeu à fond. Ceux qui jouent pas le jeu, c'est les stars qui ont eu 17 ans il y a 2 ans, donc 19 maintenant, avec un numéro 10 dans le dos, où ils se regardent jouer, ils jouent à l'arrêt, etc. Clairement, sur des matchs comme ça, t'as envie d'en baffer 2 ou 3, ouais.
Donc là, on parlait d'équipe réserve avec Julien, on parlait d'équipe première, machin. Là, on te parle du top d'un pays, on te parle de l'équipe nationale. Et t'as les mecs encore qui se permettent
de parce que t'as le top du top du boulard, quoi. Donc,
Tu m'étonnes que derrière nous, quand tu récupères des mecs en B et en C, et ça joue pas le jeu. Parce que, moi j'ai un autre niveau. Je trouve ça, moi, dramatique, quoi. Dramatique. Putain, t'es en équipe nationale, t'as le coq sur la poitrine, tu joues, quoi. Et quand bien même tu l'aurais pas, c'est même en équipe.
Alors ceci étant, par rapport à ce que tu disais, il y a 2 ans, il y a notre célèbre Rabiot qui avait fait ses petits. N'empêche que cette fois-ci, il se bouge. Lui, il a vraiment bougé. Ouais. Je pense que lui, il a compris. Bon, il a été 2 ans en purgatoire, donc là, il a compris qu'il fallait se bouger.
Puis il a l'exemple Benzema derrière lui.
Et là, lui, il a compris. Par contre, un certain, effectivement, là, moi, je les aurais bien sortis. Mais c'est ça que je réfute toujours. Je m'appellerais Deschamps, je sortirais des mecs au bout de 20 minutes. Je serais une Mourinho, je dirais, toi, tu veux pas bouger, viens.
Stop, on arrête le carnage. On va s'arrêter là, jeunes gens. Il aurait peut-être fallu parler un peu plus de Rabiot. Pour moi, Deschamps est très intelligent depuis le début avec Benzema. Je vois pas pourquoi Rabiot revient. Il aurait peut-être fallu s'épancher davantage. Mais on aura le temps dans de prochaines émissions, bien sûr. On va encore remercier Julien. Merci beaucoup, Julien.
Merci à vous, messieurs.
Bienvenue quand tu veux, notamment en fin de saison, justement, comme tu y es tout à l'heure.
Tiens, on prend rendez-vous.
Pour nous parler et peut-être affiner ton choix sur est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise de prendre cette équipe B. Merci mes chers consultants.
Merci Benoît.
Toujours un gros plaisir.
Ce fut un plaisir.
Retour au studio, on est heureux. Passez un très très bon dimanche et à dans 15 jours.
Salut tout le monde.